Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Canu. Vous êtes sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, une carte blanche à l'équipe de l'hôtellerie de Pontempera. Une partie de l'équipe, en tout cas, qui est avec moi dans les studios. Bonjour David Michelis, excuse-moi.
Bonjour.
Bonjour Amélie Dubos.
Bonjour.
Et à la technique et à la chronique en fin d'émission, Anaïs Saintas. Bonjour Anaïs.
Salut à tous.
Une heure donc consacrée à ce projet, le projet de l'hôtellerie de Pontempera, qui est une association de formation et de résidence de création artistique. Un petit mot de Sébastien Roux, qui est directeur artistique et pédagogique, qu'on peut lire dans l'édito pour avoir une petite idée de ce qu'est ce très vaste projet. Il nous dit « Être joueur est un métier, avec la connaissance des fonctions qui le composent et l'exigence que cela demande. Le nourrir est une nécessité et le transmettre une profession. » Comment continuer à ne pas cautionner le technico-cratico-créateur concept, stimuler l'intelligence à travailler collectivement selon différents points de vue. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par une petite présentation de l'un et de l'autre. David Michelis, tu es administrateur de la structure.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur ton parcours, que les auditeurs sachent s'ils l'entendent ?
Mon parcours, je suis allé quelque temps à la fac, jusqu'à ce que j'arrête, puisque ce n'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment. J'ai donc travaillé dans le socio-culturel plutôt, en centre social, tout en animant des formations BAFA et des colonies. Tout ça m'a amené, avec un parcours de musicien en parallèle, à me pencher un peu plus sur le culturel et à vouloir me former à tout ce qui est direction, gestion de projets culturels. Et donc, j'ai fini mon parcours par 2 années de formation à l'ENSAT, l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, à Lyon, où j'ai suivi 2 ans de formation au département administration, qui forme des gens à administrer tout ce qui est des structures culturelles, comme par exemple, vous en avez à Lyon, le Théâtre de la Croix-Rousse, les Célestins, la Maison de la Danse, etc., mais aussi le travail d'administrateur en compagnie.
Et Amélie Dubos, donc chargée de communication de l'hôtellerie de Pontempera.
Alors oui, pour parler un peu de mon parcours, j'ai un parcours universitaire, un master chargé de projets culturels, culture, création artistique et développement du territoire, donc que j'ai effectué à Lille, à Dunkerque et à Annecy. Et donc, j'ai pas mal travaillé dans les musiques actuelles, en communication surtout, pour le Festival des Authentiques de Vienne et puis le Festival des Nuits Botaniques de Bruxelles. Et j'ai ensuite fait une année de break après mon parcours universitaire pour m'engager en tant que volontaire associative auprès de l'association Unicité pendant 1 an à Lyon, où j'ai mené des missions de solidarité auprès de publics qui en avaient vraiment besoin. Et ça m'a rapprochée du socio-culturel, en fait. Et j'étais amenée à rencontrer Sarah Levin, l'ancienne directrice de Banlieue d'Europe, et à prendre mon premier poste dans le socio-culturel en décembre 2009, et j'ai travaillé en tant que chargée de mission, communication et organisation de rencontres professionnelles auprès du réseau européen Banlieue d'Europe, avant d'intégrer Regard et Mouvement en janvier 2012.
Voilà. Une équipe très jeune et dynamique. Un troisième membre de l'équipe qui n'est pas parmi nous, Vanessa Ripp, qui est chargée des formations.
Qui est coordinatrice des formations, laboratoires et résidences.
Très bien. Et Sébastien Roux, directeur artistique et pédagogique, dont on a lu un petit extrait de l'édito qu'il a écrit cette année.
Qui est directeur depuis 2 ans, et en fait il fait partie de la structure depuis 8 ans maintenant. Donc c'est le doyen.
Et vous êtes tous les quatre depuis le mois d'octobre dans un bureau à la Croix-Rousse, à Lyon, et prenez la route, vous partez dans 2 semaines vers les horizons, les beaux horizons de l'hôtellerie de Pontempera, à Pontempera, qui est un petit village en Auvergne, c'est ça ?
Alors ça a la particularité d'être un village coupé en deux, à la fois en Rhône-Alpes et en Auvergne, en Loire et en Haute-Loire. Le village est traversé par une rivière sur laquelle est située l'hôtellerie de Pontempera. Et donc, c'est un des villages de France qui est séparé et à cheval sur 2 régions.
Alors David, justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'historique de cette structure, nous parler du projet, et puis comme tu viens de commencer à le faire, nous décrire ce lieu, non pas les bureaux de la Croix-Rousse dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais ce lieu en Auvergne-Haute-Loire,
et
Loire.
Alors, je vais faire vite parce que d'abord cette historique, moi je fais partie du projet depuis août 2011, donc c'est très frais pour moi. Pour vous donner un peu une idée, l'association existe depuis 18 ans, mais le lieu lui est beaucoup plus ancien puisque l'hôtellerie de Pontempéra, c'est à la base une scierie en pierre, comme il y en avait beaucoup dans le département, à la frontière de la Loire et de la Haute-Loire, qui a été construite au 19e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été récupérée par un monsieur qui a fondé une hôtellerie, un hôtel-restaurant de renom, avec une certaine renommée. Beaucoup de gens venaient y faire des mariages, des baptêmes. Et puis, cette aventure de l'hôtellerie a duré une trentaine d'années. Et dans les années 80, l'hôtellerie est tombée en ruine. Elle est tombée un peu en friche, elle a été abandonnée et il n'y avait plus d'activité. Et en 94, un monsieur qui s'appelle Alexandre Del Perugia, qui est pédagogue, directeur d'acteurs, tombe sur ce lieu lors d'un voyage dans le coin et il décide de l'acheter pour en faire un lieu de recherche, de pédagogie, de formation de l'artiste. Alors, c'est les mêmes missions qui sont aujourd'hui les missions qui animent le projet de Pontempéra. L'association, je précise, qui gère ce lieu, Hôtellerie de Pontempéra, s'appelle Regard et Mouvement. C'est donc cette association-là qu'Alexandre Del Perugia a fondée en 1996. Et donc Alexandre Del Perugia a dirigé le projet jusqu'en 2004. Au fur et à mesure des années, une équipe qui s'agrandit, des actions qui s'agrandissent, une implantation territoriale et une implantation nationale qui s'agrandissent, et donc une association qui a gagné au fil de ces 18 années d'exercice en renommée, jusqu'à être, grâce à Alexandre Del Perugia à une certaine époque, nommée Pôle National Ressources des Arts du Cirque et de la Scène. Alors, si je dis ça, c'est parce que Pontempéra a une particularité, c'est que c'est un lieu de formation et de recherche, avant tout dédié aux arts du cirque. Et pas forcément aux arts du cirque, comme on penserait au cirque traditionnel avec les lions, etc., mais plutôt à tout ce qui est du mouvement acrobatique, de la matière corporelle et de la matière corps dans le spectacle. Et donc, Pontempéra a été longtemps un lieu de recherche plutôt dédié à ces arts-là. Bien qu'aujourd'hui, ce soit un lieu un peu plus ouvert sur le théâtre, les arts de la rue, sur la danse contemporaine, sur la performance qui croise un peu tous les champs, et également toujours un lieu dédié à l'accompagnement de pratiques circassiennes, donc toujours très implanté dans le cirque et dans le corps.
Et alors ce lieu complètement, enfin, ancienne scierie puis hôtellerie, est aujourd'hui investi par vous, par l'équipe permanente, entre avril et octobre, hein, c'est ça. Mais aussi par une équipe, un renfort,
saisonnière.
Une équipe saisonnière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette vie là-bas et puis nous décrire ces espaces?
Alors d'abord, comme je l'ai dit, c'est une ancienne scierie, donc c'est-à-dire que à l'époque, tout fonctionnait grâce à l'eau. Il y avait un petit bief, un canal qui détournait la rivière de Lens, la rivière qui sépare justement Auvergne et Rhône-Alpes. Et donc ce canal ramenait de l'eau jusque dans le bâtiment et faisait tourner d'immenses roues à aubes qui servaient à produire de l'électricité. Aujourd'hui, les grandes salles dans lesquelles il y avait la scierie ont été réaménagées, il y a des plateaux de travail. Et donc nous avons trois grands espaces de travail dédiés à la recherche artistique. La particularité du lieu, c'est que comme il est très vieux, qu'il est en pierre, etc., il n'est pas possible d'y travailler en hiver. Donc notre projet a une particularité toute singulière, qui est qu'il habite un lieu pendant 6 mois et qu'il voyage hors les murs 6 autres mois de l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des formations un peu partout en France, voire même à l'international, et que 6 mois par an, c'est-à-dire de mai à octobre, on travaille sur ce lieu à de la résidence de création, de la diffusion territoriale, des projets sous chapiteau, des projets de formation sur le lieu de Pontempéra. Tout ça fait que on a besoin d'une équipe permanente qui anime le projet de l'hôtellerie pendant 12 mois et d'une équipe saisonnière composée d'intermittents mais aussi de gens salariés en CDD qui viennent prêter main forte et faire partie intégrante de l'équipe 6 mois par an. Voilà.
Et des caravanes, un champ de caravanes sur le lieu aussi, où vous dormez tous, vous habitez là-bas.
Alors tout à fait, oui. Ben, la particularité de s'engager dans ce projet, c'est d'avoir une vie dite comme on l'avait dans les cirques traditionnels à l'époque, un petit peu nomade. Et donc 6 mois par an, l'hôtellerie de Pontempéra accueille tout le monde en caravane. Donc on a un parc d'environ 45 caravanes qui sont aménagées, chauffées, équipées, etc. Et dans lesquelles les gens peuvent dormir. Ça leur sert de chambre individuelle, puisque l'hôtellerie n'est qu'un lieu de travail et pas un lieu de logement. Voilà, ça c'était important la séparation des espaces est très importante à l'hôtellerie de Pontempéra pour marquer vraiment un temps de travail précis, un temps de repas et de convivialité précis, un temps de sommeil et de calme précis. Voilà, tout est fait pour favoriser le travail artistique.
Et donc pas un lieu touristique du tout.
Ponctuellement, il arrive que, étant donné que le lieu est situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en tout cas sur l'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'il en existe de nombreux, eh bien, ponctuellement, on accueille des touristes qui viennent, voilà, qui se promènent dans le coin et qui ont besoin d'une nuit ou deux en caravane. Comme on a une équipe de restauration sur place également, il est possible de se restaurer à l'hôtellerie de Pontempéra en payant son repas. Et éventuellement, si vous tombez un soir d'eau à la bouche, de voir une présentation de travail d'une compagnie, de rencontrer des artistes sur le site.
On en parlera plus longuement. Je vous propose de faire une petite pause musicale, un petit clin d'œil choisi par Amélie, un petit clin d'œil à l'ancien intendant
Michael Phyllis, voilà, qui nous passait souvent cette piste de la fanfare Totor.
Pour vous donner une idée de l'ambiance
des nuits à Pontempéra.
L'ambiance des nuits à Pontempéra. Ils conjuguent leurs expériences de cirque et de théâtre pour explorer les frontières poreuses entre l'homme et l'animal et approfondir leurs recherches corps-langage. Voilà une phrase mise en exergue dans la plaquette des formations et laboratoires de Pontempera sur la page de la compagnie du Singe Debout qui va tenir une formation à Pontempera, donc à l'hôtellerie de Pontempera, du 22 juillet au 2 août prochain. Voilà une formation sur l'instinct animal et les métamorphoses. Ceci nous amène donc à parler un peu plus précisément de ces fameuses créations, sachant que Pontempera, comme on l'a dit en début d'émission, est avant tout une association de formation artistique, ce qui est assez singulier. C'est vraiment, je pense, unique ou en tout cas très, très rare en France à ma connaissance. Amélie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces formations et on ira ensuite vers les laboratoires qui sont encore un autre axe, une autre mission de Pontempera?
Bien sûr, alors je peux vous dire qu'on est un des plus gros organismes de formation professionnelle en France après Chantier Nomade et qu'on propose chaque année depuis plusieurs années maintenant, depuis 18 ans, des cadres de recherche et de formation avec une dizaine de compagnies ou d'artistes par an. Donc voilà, on a deux programmes. Un programme de formation professionnelle. Donc nous, on a la particularité d'appeler ça des déformations professionnelles parce qu'on explore, on est vraiment dans l'expérimentation artistique et dans la recherche. Donc voilà, je peux parler peut-être un peu des compagnies et des artistes qui viennent travailler à l'hôtellerie et hors de ces murs cette année. Notamment le Singe Debout, Cyril Casmès, qui est un circassien qui a beaucoup travaillé avec le Cirque Plume, que vous avez peut-être pu voir dans Astérix et Obélix, Mission Clé. Cléopâtre, c'est l'homme chien dans le film. Donc il a une carrure déjà bien particulière qui lui est propre. Il ressemble un peu à un gorille, quoi. Donc à la base, je l'ai vu jouer dans un spectacle il y a 2 semaines à l'auditorium de Seynon. Et c'est vrai que il travaille sur l'animalité, l'animal qui est en nous, et donc ils vont mélanger donc le cirque et le théâtre pendant ces 10 jours à l'hôtellerie de Pontempera. Donc il y a tout un programme prévu. Peut-être que tu peux nous parler de Maryse Gauthier ou d'une autre formation avant de passer au laboratoire.
Je peux dire 2 mots de Maryse Gauthier, qui est une éclairagiste. C'est la particularité d'habitude Pontempera. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un programme de formation qui est dédié avant tout à l'artiste, aux artistes créateurs, porteurs de projets artistiques. Et non pas, comme dans beaucoup d'organismes de formation, des actions tournées vers les techniciens, vers les administrateurs, sur des points très précis, des techniques très précises. Donc nous, on ouvre vraiment, comme l'a dit Amélie, des cadres de recherche au sens d'apprentissage, mais aussi de test de soi. Donc des formations qui vont se s'interroger soi-même sur notre technique, notre univers artistique, etc., pour aller dégager des choses, de la matière, et apprendre toujours, récupérer en compétences, mais apprendre également de nouvelles techniques, de nouvelles portes d'entrée à franchir. Maryse Gauthier, donc ce que je disais, c'est que c'est une dame qui est éclairagiste, donc ça vient un peu en contrepoint de ce que je viens de dire sur le fait qu'on invitait essentiellement des artistes. Mais Maryse considère la lumière comme une matière vibratoire et à ce sens-là, elle lui donne vraiment une patte artistique très précise. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la danse contemporaine et notamment pour de très grands artistes français de la danse contemporaine. Et donc elle viendra en 2 sessions d'une semaine proposer une formation à des artistes qui connaîtraient ou pas le processus et le mode de création autour de la lumière, pour leur faire toucher un peu du doigt le fait que une création lumière, c'est pas seulement braquer un projecteur sur un comédien pour qu'on le voit bien sur scène, c'est aussi peut-être transmettre quelque chose à travers la couleur, donner une patte artistique, donner une dramaturgie, éclairer un propos. Enfin voilà, c'est comment on cisèle la lumière aussi bien que le texte, aussi bien que le corps, aussi bien que le reste, pour en faire un élément du spectacle à part entière.
Et alors, comment Maryse Gauthier, par exemple, puisqu'on vient de parler d'elle, a été choisie pour faire cette formation, pour elle porter cette formation, et comment les artistes, interprètes ou autres, peuvent eux-mêmes participer à ces formations?
Alors, pour parler de Marès Gauthier, en fait, on travaille à l'Hôtellerie de Pontempéra avec Sébastien Roux, dont on a parlé tout à l'heure, qui est directeur artistique et pédagogique, et donc qui est quelqu'un qui pose un regard sur beaucoup de spectacles, beaucoup de performances, etc., qu'il peut voir, et qui s'interroge énormément sur qu'est-ce que le spectacle aujourd'hui, comment on le fait, comment l'interprète se fabrique, etc., etc. Et donc Sébastien, via un réseau qu'il sollicite, crée des cadres de formation. Il les crée au sens où il va solliciter un artiste en lui disant « Écoute, j'aime beaucoup toi, comment tu travailles tel ou tel point, ton approche de ci, de ça, etc. » Et donc peut-être qu'on pourrait monter un cadre qui amènerait des gens à se questionner sur, etc., etc. Et donc il monte des cadres de formation. Alors il y a tout un montage administratif, bien sûr, sur lequel Sébastien travaille, mais il y a également tout un montage, comment dire, philosophique, de comment on amène une personne, un artiste, à s'interroger lui-même sur sa manière de transmettre et comment il va faire passer les choses.
C'est avant tout une relation d'artiste à artiste et vous recrutez pas des formateurs, quoi.
Alors, on recrute des gens qui sont des pédagogues, c'est-à-dire qui ont quand même une capacité de transmission et, personne ne peut du jour au lendemain transmettre quelque chose comme ça sans avoir vraiment exploré. Donc Sébastien, voilà, sollicite des personnes très précises sur des questions très précises et il amène ces personnes effectivement à se mettre au service d'interprètes qui vont venir participer. Donc Pontempéra, il faut savoir que c'est un organisme de formation professionnelle, c'est-à-dire que par exemple n'importe qui a cotisé à la formation professionnelle peut se faire payer via ses droits à la formation professionnelle une formation à Pontempéra. Donc on travaille main dans la main avec l'AFDAS qui est un peu qui est l'OPCA du spectacle vivant, c'est-à-dire l'organisme collecteur de toutes les cotisations sociales autour de la formation professionnelle pour les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Toutefois, via des parcours comme le DIF, c'est-à-dire le droit individuel de formation que n'importe qui, comme vous et moi, mais dans tous les secteurs, dans tous les métiers, cotise, il est possible de se faire payer une formation à Pontempéra. Ou bien sur besoin de la payer de sa poche si vraiment c'est pas possible d'avoir ces droits-là.
Voilà. Et il y a des procédures de recrutement du coup pour les personnes qui sont intéressées pour participer à ces formations. Ça se fait sur dossier, sur rencontre, sur entretien.
Alors pour vous en dire plus, c'est justement Vanessa Rip chez nous qui s'en occupe. C'est une pré-inscription qui se fait uniquement sur notre site internet www.hôtellerie-pontempéra.com. Donc suite à la réception de votre candidature, il y a bien sûr une sélection qui se fait à la fois par Sébastien Roux et à la fois par l'artiste, le pédagogue. Et du coup, bien sûr, quand on peut, il y rencontre les candidats avant de lancer la formation.
Et alors je vois, et on se disait ça en aparté pendant le petit extrait musical de Fanfare, qu'il y a en effet ces 6 mois de formation dans ce lieu incroyable qu'est l'hôtellerie de Pontempéra à Pontempéra, qui se prête vraiment à la recherche et voilà, à couper du monde, etc. Mais le reste de l'année, les 6 autres mois, il y a aussi des formations ailleurs en France, ailleurs à l'international, on y reviendra.
Tout à fait. Alors, pour vous donner quelques noms d'artistes avec lesquels nous travaillons, il y a Cédric Paga, qui est formateur pour nous depuis quelques années, qui va donner à la fois cette année une formation autour du bouffon en partenariat avec le collectif Ramdan de Sainte-Foy-lès-Lyon. Il va donner, donc ça sera voilà, à Sainte-Foy-lès-Lyon, il va donner une formation dans un endroit idyllique et insolite, donc voilà, il veut pas communiquer sur le lieu parce qu'il y a il met l'eau à la bouche parce que il y a tout un processus et un procédé pour que les stagiaires arrivent les yeux bandés sur le site, enfin voilà, c'est expérimental aussi, et donc un laboratoire également de recherche, et le lieu est encore à définir. Donc pour Cédric Paga, voilà, c'est les premières actions dans les murs. Peut-être tu peux parler du collectif ici même à Lyon.
Alors ici même, qui est un collectif qui travaille à Grenoble, qui est un collectif qui travaille plutôt sur la matière sonore et comment on se réapproprie la ville et ses écosystèmes à travers un travail du son et de la perception sensible, viendra à Lyon. Je ne vais pas vous donner le quartier, mais c'est un quartier très fréquenté de la ville de Lyon, dans lequel on va travailler pendant une dizaine de jours en décembre 2013.
Et hors les murs.
Deux sessions.
D'accord.
Ouais.
Je reviens sur le fait qu'on soit en partie à l'hôtellerie pour tempérament, en partie un peu partout en France. On travaille en décentralisation, c'est-à-dire que nos projets, c'est nous qui les montons administrativement et dans leur forme, etc. Et qu'après, on collabore avec des lieux de spectacle, mais aussi des lieux de recherche, comme il en existe une multitude en France, pour essayer d'abord d'élargir notre territoire de rayonnement et pas seulement proposer des choses à des artistes qui pourraient être très proches de nous, comme les artistes rhône-alpins, mais essayer d'aller vers Paris, vers la Bretagne, mais aussi en Aveyron, mais aussi à Sète, etc., à d'autres endroits, à Marseille, pour voilà, travailler avec des lieux qui ont d'autres particularités artistiques, d'autres qui offrent d'autres cadres de recherche, peut-être d'autres paysages, des fois simplement, comme c'était le cas en Aveyron en travaillant au cœur du Rougier de Camarès. Et donc tout ce processus et ce parcours de formation nous amène voilà à collaborer vraiment dans d'autres endroits et avec d'autres artistes que seulement ceux qu'on invite et ceux avec lesquels on travaille.
Vous êtes un tisseur de réseaux, des tisseurs de réseaux artistiques, de recherche.
Ça fait partie.
Et alors, ces laboratoires, justement, qui semblent être assez proches des formations, quelle est leur particularité et leur définition même ?
Alors, ça permet de faire une transition entre la formation et la résidence, dont on parlera après. Les laboratoires, c'est une activité de l'hôtellerie qu'on a lancée l'année dernière. Donc, c'est une volonté de notre part de porter cette activité sans partenaire, entre guillemets, pour ouvrir un cadre, un espace de recherche et d'expérience où il n'y a pas d'objectif pédagogique, mais vraiment une volonté de faire avancer une création avec un artiste qu'on invite. Donc cette année, on accueille 9 laboratoires et on accueille pas mal d'artistes internationaux. On a par exemple 3 performeurs, Jeremy Wade qui est américain et qui vit à Berlin. On a Keith Hennessy qu'on a accueilli l'année dernière et qui est américain également, qui travaille sur le mouvement queer. Et puis un troisième artiste, Ivo Dimchev, voilà, qui est bulgare et qui travaille également sur la performance. Voilà, et c'est comment des artistes sont invités à faire avancer une création tout en voilà en étant dans de la recherche artistique.
Faire avancer une création. Un artiste vient a envie de travailler sur sa propre création
en ouvrant
à d'autres artistes,
exactement.
Du coup, pour travailler sur sa création tout de même.
Et faire avancer, en tout cas, où elle a une création ou un cadre de recherche.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Sans objectif pédagogique, comme on peut les retrouver dans les formations.
On n'est plus sur de l'acquisition de compétences, comme je l'ai signé tout à l'heure. On est plutôt sur comment un artiste met en débat, en question, en jeu, son univers, sa technique propre, ou des éléments particuliers de son spectacle, ou en tout cas de son prochain spectacle, auprès de personnes qui viennent l'accompagner, se poser des questions avec lui, essayer des choses avec lui. Et tout ça crée ce qu'on pourrait appeler de la ressource artistique dont va se servir l'artiste ensuite. Alors il y a un certain avantage à l'artiste qu'on invite qui est là pour nourrir sa création, mais également un avantage énorme à faire partie de ce qu'on appelle les laborantins, c'est-à-dire les gens qui viennent travailler avec cet artiste, puisque d'abord ils rencontrent cet artiste et puis en plus le fait de travailler dans des processus de recherche qui ne sont pas les siens habituellement amène aussi à renforcer sa vision des choses, à nourrir ses propres créations. Donc on accueille souvent éventuellement des artistes qui viennent travailler avec d'autres artistes justement.
Et alors je m'aperçois, on en parlait tout à l'heure aussi, que ça peut aller très loin, ce travail de recherche. Vous proposez en octobre à Ramdam, à Sainte-Foy-lès-Lyon, un laboratoire autour de qui s'appelle Bouffon des goûts, autour de la cuisine moléculaire, matière de jeu et performance.
Exactement. Donc
ça m'intrigue.
Oui, on travaille avec une chef cuisinier, Christine Liénard, qui est sur Paris. On travaille donc avec Sébastien Roux, notre directeur, qui se lance dans la formation depuis cette année. Et Elisabeth Saint-James, qui est une artiste plasticienne que l'on accueille en résidence d'accompagnement également sur 3 ans, et donc qui se lance dans un laboratoire cette année, donc qui s'adresse à des professionnels de la scène et à des plasticiens pour aborder l'aliment comme matière de jeu dans le cadre d'une performance. Voilà.
Très bien. Je vous propose de faire une petite pause pour écouter, donner un petit peu la parole à un artiste, à deux artistes même, Christophe Evette et Raphaël Trugnon, tous les deux de la compagnie des grandes personnes de Bervilliers, qui ont été en résidence, une autre mission encore de Pontempéra, une autre activité, en résidence à Pontempéra et qui ont été interviewés par Radio Craponne, une radio locale autour de Pontempéra, voilà, qu'on n'a pas la chance d'avoir ici avec nous, mais qui ont plein de choses très intéressantes à nous dire.
D'accompagner les grandes personnes à l'hôtellerie de Pontempéra. Donc la compagnie des grandes personnes, c'est une compagnie de la région parisienne, d'Aubervilliers. Et c'est vrai que vous aviez l'habitude de travailler sur des objets beaucoup plus grands. Là, vous avez beaucoup diminué aujourd'hui. C'est très sympa comme spectacle avec des petits santons, enfin des petits personnages, je pensais.
Oui, c'est des santons. Hein.
Ouais, c'est des santons.
Ouais. C'est des santons, mais c'est des santons qu'on a sculptés nous. Enfin, qu'on a modelé, moulé, tiré en terre cuite, et puis peint à la gouache. On a essayé de garder vraiment la recette traditionnelle du santon de Provence. Voilà, il y avait la volonté de revisiter un peu un art populaire qui a été quand même assez présent pour nous, presque pour nous tous, quoi, dans l'équipe. Et puis aussi, on trouvait que la fragilité du santon par rapport à celle de l'ouvrier, etc., il y avait un rapport qui était intéressant. Mais effectivement, on a beaucoup travaillé avec des marionnettes qui font 4 mètres de haut, 5 mètres de haut. Donc là c'est les santons, ils font 9 centimètres, voilà.
Ouais. Alors bon, donc le spectacle, on l'a compris, c'est Renault, quoi. Vous êtes parti sur la marque Renault pour voir l'évolution quand c'est arrivé en Normandie. Et on a vu toute l'évolution, bien sûr, mai 68, tout ça, ce qui se passait dans le monde ouvrier. Donc, moi, je trouve que, connaissant un peu l'histoire, j'ai trouvé que vous l'avez bien retranscrit, en fait. Hein. C'est bien ça, on prend bien le plaisir, il y a un petit peu d'humour. Alors, vous qui jouez, à votre prénom, je vous ai pas demandé.
Raphaël.
Alors, la Raphaël qui joue le rôle, c'est pas trop difficile, pendant 40 minutes, vous arrêtez jamais, quoi.
Non, c'est passionnant parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire ou que j'apprends à faire. La manipulation du tout petit, et c'est génial. C'est génial. J'attends de voir comment ça évolue.
Voilà, on a vu que le public a bien marché, hein, toujours. On a senti que le public a bien accroché. Bon, vous avez fait ce qu'il fallait, je pense, dans l'évolution de l'histoire. Alors, c'est tout petit, mais finalement, comme vous les déplacez, comme vous les maniez, on s'en rend pas tellement compte. On suit surtout l'histoire et les personnages, on les voit, mais moi, je trouve que ça gêne pas.
Oui, et puis je pense aussi que sur la table, la vision d'ensemble est intéressante parce que du coup, on voit bien, il y a la disparition de la campagne, avoir la vision d'ensemble, c'est important. Je suis pas sûre que de voir vraiment le détail des tout petits personnages soit très important pour la compréhension du spectacle. C'est plus les mouvements, les mouvements des ouvriers, le rapport à l'urbanisme autour, etc. C'est ça, en fait, qui est montré plus là.
Alors, passer de 4 mètres à 5 centimètres, c'est pas trop compliqué.
Non, ça reste, nous, on travaille beaucoup autour de la sculpture. Donc là, il y a un gros boulot. Raphaël a beaucoup bossé, répété tout ça, avec notamment Nicolas, Evelyne, il y a toute une équipe.
Vous êtes combien dans la compagnie, sans là?
On est une vingtaine et on est une bonne dizaine à avoir travaillé sur ce projet-là. Il y a 5 personnes qui ont modelé les personnages. Ça reste un travail de sculpture et finalement, travailler en petit, c'est presque plus long de faire une tête qui fait 1 centimètre de haut que d'en faire une qui fait 1 mètre de haut, quoi. J'exagère un peu, mais on a été surpris par le temps que ça prenait de modeler ces personnages. Et finalement, par rapport à ce que vous disiez, on est parti donc d'interview. Il y a Jean-Baptiste Evette qui a écrit le texte. On est parti ensemble avec lui interviewer principalement des retraités dans la région d'Elbeuf, de Cléon. Et nous, on avait dans l'idée de parler des acquis sociaux, parler du XXe siècle et de prendre un exemple qui soit finalement pas le plus connu, pas le plus violent non plus, de montrer que voilà, des individus pouvaient changer aussi le cours de l'histoire, et puis de montrer qu'au XXe siècle, il y avait des choses qui avaient été, non pas données comme des cadeaux, mais qui avaient été gagnées, acquis
après des luttes.
Et puis finalement, en discutant avec ces retraités, on s'est rendu compte que l'histoire de Cléon Renault, c'était aussi l'histoire d'une rencontre et d'une confrontation entre un monde agricole et un monde industriel, et que ça avait énormément bouleversé la vie des gens et le paysage. Et je crois que c'est visuellement, c'est ce qu'on voit peut-être le plus dans le spectacle, comment on part d'une table qui est un espèce de campagne normande, là, dans cette boucle de la Seine, pour arriver au paysage tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, l'usine est immense. Alors là, on a fait une petite usine parce que c'est une petite table, mais voilà, c'est un petit extrait de l'usine, parce que là, c'est très très grand, quoi, l'usine Renault Cléon.
C'est la première fois que vous venez à Pontempéra, en résidence ?
C'est la première fois,
hein. Ah, d'accord.
Et on a été très très bien, accueillis d'abord. Et puis on trouve que le lieu est très propice au travail, à la création. On a pu vraiment se concentrer sur notre travail. Il y a cette nature autour, ce vallon qui est très protégé. Il y a le calme, le fait que le téléphone ne passe pas finalement, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et du coup, voilà, on a pu vraiment cette semaine ne faire rien d'autre que de travailler et puis rencontrer un petit peu les autres équipes qui étaient en train de travailler, l'équipe de l'hostellerie. Non, on est très contents et on espère revenir parce que ça fait du bien de sortir de chez soi. Et ça fait du bien voilà, de pouvoir se concentrer comme ça sur son travail, s'extraire un petit peu de
la région parisienne.
Voilà, de la région parisienne.
Et c'est un spectacle qui va tourner à partir de quand ?
Du 30 juillet, la première date, c'est le 30 juillet.
D'accord. Et vous avez déjà beaucoup de dates, je dirais.
Non, non, pas énormément de dates, puisque personne n'a vu le spectacle. Vous êtes les premiers ce soir à l'avoir vu. Donc, personne ne l'a vu, mais ça va tourner. On fait une tournée avec les centres de vacances EDF, GDF, les CCAS. Cet été, là, dans les Pyrénées Atlantiques, aux Pyrénées Orientales. Ensuite, on va jouer au mois de septembre dans le festival Sergissois. On devrait jouer au mois d'octobre dans une salle à Paris qui s'appelle le Grand Parquet. Et puis après, on verra. Après, on verra où est-ce qu'on aura l'occasion de jouer. C'est un spectacle qu'on a imaginé pour l'extérieur, qui peut aussi jouer en intérieur. C'est un petit dispositif. L'idée de ce spectacle aussi, c'était de faire un spectacle qui puisse voyager en transport en commun. Justement, on a changé d'échelle. Nous, avec nos grandes marionnettes, on bouge avec des 22 mètres cubes, des fois avec plusieurs camions. Et là, on a un spectacle. On s'est dit, voilà, un spectacle, on va avoir 4 valises, on va bouger à 2, on peut prendre le train.
D'accord.
Et prendre un bus et être tout léger avec ce spectacle.
Spectacle écologique.
Voilà.
Mais écoutez, merci à tous les deux, puis encore bravo.
Merci à vous.
Voilà, c'était une interview que Radio Craponne nous a, par le biais d'Amélie, prêtée, échange de bons procédés entre radios locales, avec un petit accent local aussi, comme on a pu l'entendre. Oui. On va du coup profiter de ces propos de Christophe Evette et Raphaël Trugnan, qui étaient en résidence à Pontempéra, pour parler de cette troisième mission, je ne sais pas si vous employez ces termes-là, mais en tout cas, troisième volet de vos activités.
Bien sûr. Alors du coup, la troisième mission de Pontempéra, de l'hôtellerie de Pontempéra, c'est vraiment d'accueillir et d'accompagner et de donner du temps à des créateurs pour qu'ils puissent venir tester des choses ou peaufiner ou continuer à créer en fait leur spectacle. Donc ils viennent de mai à octobre sur le site de l'hôtellerie et ils sont accueillis pour une durée de 1 à 3 semaines, sauf deux artistes qu'on accueille sur du plus long terme. C'est Lila Derich, qui est une danseuse parisienne qui est en situation de handicap, donc qui est une danseuse qui travaille sur un solo en fauteuil roulant, et Elisabeth Saint-Gem, qui est plasticienne.
Dont on parlait tout à l'heure, pour la cuisine moléculaire.
Exactement. Sinon, les autres artistes, on accueille une quinzaine de compagnies par an, de mai à octobre, sur le site de l'hôtellerie. Et on laisse un espace, on a créé donc depuis 7 ans, les rencontres Les Oies à la Bouche, qui sont des soirées, dîners, rencontres artistiques, où nous ouvrons le lieu vraiment à tout public qui sont curieux de découvrir le travail en cours, la création en cours d'un artiste. Accompagné d'un dîner et d'une rencontre conviviale pour poser des questions, échanger sur ce qu'ils ont compris ou les artistes sont friands aussi de certains artistes sont friands d'ouvrir leur création pour voir où ils en sont, quoi.
Donc ces soirées Oies à la Bouche dépendent de la volonté des artistes de présenter leur travail, donc c'est vraiment aléatoire, on n'a pas de calendrier prédéfini ou de rendez-vous hebdomadaire ou mensuel?
Non, pas du tout. Les années précédentes, en fait, on recrutait les compagnons en résidence via un appel à candidature qui était lancé en juin sur notre site internet. Et dans le dossier de candidature, les compagnies, on leur propose à chaque fois, est-ce que vous souhaitez convoquer un public, montrer votre travail devant un public ou non? Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'impératif de production. Ils peuvent être là pendant une semaine à trois semaines sans vouloir montrer quoi que ce soit en fait de leur projet et juste travailler sur une petite chose qu'ils vont faire évoluer et nous le montrer peut-être à nous, parce qu'on organise aussi des soirées où les artistes peuvent montrer leur travail aux autres équipes artistiques qui sont sur le lieu. Mais voilà, c'est vraiment en concertation avec eux et il n'y a aucune obligation de ça.
Combien de personnes vous pouvez accueillir en même temps à Pontempéra, hors soirée ou à la bouche, hein, vraiment équipe artistique approximativement?
Alors il y a 45 caravanes, ça fait à peu près 45 personnes. Voilà, ponctuellement on travaille avec des gîtes locaux. Donc on peut monter jusqu'à 50 personnes maximum, mais c'est quand même assez rare.
Et donc laboratoire, formation, résidence peuvent se croiser, se côtoyer, créer des liens artistiques aussi.
Tout à fait.
Parfois il y a des volontés comme ça de rencontres de...
Alors pour Tempéra, c'est vraiment un espace de rencontre en l'occurrence, et le fait d'être dans un cadre plutôt fermé et plutôt au fin fond d'un vallon en pleine nature fait que forcément les liens se tissent, puisque il faut savoir que le portable ne passe pas, mis à part l'opérateur SFR, et donc il fallait pas
pour
dire
ne pas
son
le
nom
citer.
Voilà, pour ne pas le citer. Voilà, pour vous dire que le portable ne passe pas, et donc forcément on crée des temps de convivialité très importants autour de la table, autour des salles de travail,
autour du
feu de cheminée,
parce
qu'on a une grande cheminée et qui fait pas très chaud, c'est vrai. Mais voilà, il y a vraiment des rencontres artistiques qui se sont faites à Pontempéra et qui ont donné lieu à des créations, à des spectacles. Je citerai un duo d'une compagnie qui s'est montée récemment qui s'appelle La Boca Abierta, de deux artistes, Anne Kampf et Lior Schouve, qui se sont rencontrés lors d'un stage. Un stage de formation à Paris organisé par l'hôtellerie de Pontempéra, et après cette rencontre elles sont venues créer toutes les deux leur spectacle à l'hôtellerie de Pontempéra en résidence, et aujourd'hui elles sont lauréates du Jeune Talent Cirque Europe, et donc elles reviendront prochainement à l'hôtellerie de Pontempéra certainement présenter le spectacle abouti. Donc voilà, né d'une rencontre dans une formation, un spectacle se crée en résidence à Pontempéra, puis dans d'autres lieux, bien sûr, il a été coproduit et accompagné par d'autres lieux, et maintenant il va revenir peut-être à Pontempéra pour présenter un travail plus finalisé.
Voilà, ça fait partie de notre travail d'accompagnement, et j'en profite pour parler de notre festival qui existe depuis 7 ans.
Oui, j'allais y venir, en disant, voilà, lieu fermé, de travail très fin, très en profondeur entre artistes, mais en même temps une volonté de rencontrer votre public, d'aller un peu sur le territoire au-devant des gens.
Bah, c'est parti d'une volonté du public, en fait. C'est assez marrant parce que c'est le public qui avait pu assister à des soirées sorties de résidence, qu'on dit, mais c'est super de voir une création en cours, mais on aimerait bien voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne à la fin. Enfin, voilà. Et du coup, le festival des Ponts Temporesques s'est créé il y a 7 ans déjà. Et il a lieu le dernier week-end de septembre, sur 2 jours. Voilà.
Et donc, en quoi, programmation, quel type d'artiste? Est-ce que c'est nécessairement des artistes qui ont été en formation, en laboratoire ou en résidence, ou est-ce que ça peut être des tout autres rencontres et des tout autres présentations?
Ben justement, on insiste sur le fait qu'on accompagne les artistes de leur étape de création à l'aboutissement d'un spectacle. Donc on programme principalement les spectacles aboutis des compagnies accueillies en résidence les années précédentes, et des artistes qui donnent des formations et laboratoires aussi à Pontempéra.
D'accord. Et on parlait aussi tout à l'heure, on évoquait des petites itinérances en sous-chapiteau. Est-ce que ça aussi s'est porté par Pontempéra? Et si oui et sinon, comment ça se passe?
Alors, pour Tempéra, voilà, avant tout une mission de formation et avant tout un lieu qui accompagne la création. Toutefois, pour Tempéra est situé sur un territoire rural qui est aux confins de la Loire et de la Haute-Loire, dans une zone plutôt, j'allais dire, dévitalisée culturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros équipements qui irriguent le territoire avec des propositions comme vous pouvez en avoir quotidiennement à Lyon. Si vous voulez, à Pont-Tempéra, le premier théâtre proche, c'est le théâtre du Puy-en-Velay qui est à 45 minutes. Donc tout de suite, pour les habitants du territoire, ça fait de la route. Donc Pont-Tempéra s'est doté, au fur et à mesure des années, d'une mission supplémentaire qui est un peu l'animation culturelle de son territoire. D'abord à travers ses soirées eau à la bouche qui présentent des étapes de travail, mais également à travers des petits outils de diffusion, comme le Festival des Ponts Tempéresques par exemple, et plus récemment via un nouvel outil qui est le chapiteau, qui fait écho à la dimension cirque du projet de Pont-Tempéra. L'hôtellerie organise des spectacles en itinérance sur le territoire, c'est-à-dire que le chapiteau va venir s'implanter une semaine sur une commune. Une compagnie va être sous ce chapiteau, va travailler sa création lumière peut-être. Voilà, il y aura peut-être des ateliers pédagogiques avec des collèges, des lycées, peut-être des rencontres avec les habitants du territoire, et toujours un moment de représentation à travers deux soirées où la compagnie invitée présente son spectacle. Donc ça, c'est un dispositif tout nouveau qui va dans le sens de pouvoir faire vivre un territoire rural avec des propositions qui se déplacent sur ce territoire, puisque c'est vrai que, alors nous on connaît très bien les propositions urbaines, et c'est très facile d'aller au théâtre avec en bus, en métro, quoi que ce soit. Il faut penser que dans le territoire rural, eh bien, le moindre déplacement, il faut prendre sa voiture, faire 45 minutes de voiture pour aller voir un spectacle, puis revenir, etc. Ça brise un peu ce temps de convivialité qu'on aime bien recréer à l'hôtellerie de Pont-Tempéra, et donc le chapiteau qui va s'implanter dans une ville permet d'accueillir un spectacle, mais aussi d'offrir à manger aux gens, de boire un petit verre après la représentation, de discuter, voilà, de maintenir ce qu'on appelle du lien social, en fait, et ce qui est un peu notre cœur de métier aussi, même si le vecteur c'est l'artistique, on essaie vraiment de travailler sur une vraie convivialité, et donc le chapiteau est particulièrement un outil très adapté, et son itinérance est un très bon palliatif au monde rural.
Merci beaucoup, je vous propose une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans 3 minutes. êtes toujours sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. On poursuit et on termine, on a encore 5 à 10 minutes avec une partie de l'équipe de l'hôtellerie de Pontempera. Et on vient de balayer à peu près toutes vos missions de formation, de création artistique, de laboratoire, de résidence. Et tout votre travail sur le territoire, d'action territoriale, ça m'amène à vous poser une petite question, peut-être un petit peu caricaturale, mais il semblerait quand même dans votre ligne artistique, que vous ayez une ligne artistique plutôt pointue, plutôt pour ne pas dire inaccessible, mais en tout cas voilà un travail de recherche. Très fin et peut-être difficile d'accès, et tout ça dans un paysage culturel quasiment à Pontempera, en tout cas vierge, avec très peu de propositions pour les habitants. Donc comment justement se passe cette confrontation, habitants qui ont très peu l'habitude de voir des spectacles et qui se trouvent confrontés à ce genre de présentation?
Alors c'est pas du tout une question stupide et anodine, c'est plutôt mettre le doigt sur quelque chose d'important. Pontempera, c'est un peu conçu au fil des années comme un peu un bastion, quelque chose de vraiment qui défend avant tout une valeur artistique et une place pour l'artiste globalement, une place pour l'artiste dans la société. Et donc c'est sûr que on rentre très rapidement en confrontation avec un territoire, des habitants, etc. Toutefois, et là je vais saluer mon collègue Sébastien Roux qui a une parole très juste sur ce projet, qui est de dire que Pontempera, c'est aussi un vrai processus et un vrai outil pédagogique, au sens où on n'éduque pas un public en lui montrant des concerts à la Mormoelle-Neu et du théâtre à De Francisou, mais plutôt en lui apportant des propositions de qualité, en lui montrant que des artistes, c'est des gens qui travaillent, qui cherchent, qui se questionnent, et que même si leur travail peut sembler complètement farfelu, complètement déconnecté de la réalité, il touche au plus profond de chaque personne et il emmène à se poser soi-même des questions sur sa condition d'homme, etc. Donc Sébastien a la parole très juste de dire que à Pontempera, on montre l'artiste en train de se former. Si quelqu'un vient manger à l'hôtellerie de Pontempera un jour et tombe sur une formation en cours, il va voir le travail de l'artiste en résidence, il va voir le travail de l'artiste abouti. Donc, on fait une vraie éducation sur le long terme. En tout cas, on tend à démystifier un peu l'artiste branleur qui touche ses allocations et qui n'en fait pas une.
Oui, un vrai travail de médiation, et la rencontre avec le public se fait, et le public est au rendez-vous au Pontempéresque et aux soirées ou à la bouche, et vous commencez à connaître ce public-là.
Alors, au fur et à mesure des années, les gens se sont rendus compte que c'était pas que n'importe quoi, et il y avait pas que des gens tout nus qui couraient dans l'herbe à l'hôtellerie de Pontempera. Il y avait aussi un besoin de travail artistique approfondi, et surtout d'aller dans des endroits de la recherche et de la pédagogie. Et oui, effectivement, aujourd'hui, il y a un petit groupe de fidèles du territoire qui vient aux eaux à la bouche régulièrement, qui vient au Pontempéresque, qui vient même en tant que bénévole, qui vient même de temps en temps comme ça à l'impromptu manger à l'hôtellerie de Pontempera et rencontrer des artistes. Donc il y a un vrai relais, un vrai message de territoire qui se met en place.
Et un vrai maillage.
Et un vrai maillage.
Et au-delà de ce territoire Haute-Loire, Auvergne, je vais y arriver, Rhône-Alpes, Auvergne, Haute-Loire, vous regardez un petit peu au-delà des frontières et proposez des formations à l'international, peut-être aussi des laboratoires et des résidences, je ne sais pas.
Tout à fait, depuis 2006, je crois, Sébastien Roux a été missionné sur le côté, la partie internationale, en proposant de construire des formations. Alors, je me souviens qu'il y a une formation dans le désert au Maroc avec Alexandre Del Perugia et Laurence Mayor en 2006. Une formation avec Cécile Briand autour du théâtre d'objets au Mexique, en partenariat avec le Teatro Linea de Sombra. Et nous sommes déjà allés une première fois au Sénégal, en dessous de Dakar, vers Toubab Dialaou, un village de pêcheurs, où nous travaillons dans la brousse, en pleine brousse, dans un théâtre en plein air qui s'appelle le Théâtre de l'Engouement. Et donc je suis d'ailleurs partie au mois de février pour suivre Sébastien Roux qui donnait donc la première formation cobaye avec Alexandre Del Perugia autour de l'autonomie du créateur. Donc c'est comment accompagner les artistes dans leur processus de création. Voilà.
Et est-ce que là-bas vous travaillez aussi avec des artistes locaux ou c'est plutôt des artistes français qui partent tous ensemble à l'étranger?
Alors pour cette première formation, on a accompagné des créateurs français, mais dans l'objectif de créer une tournée dans les villages, donc de rencontrer des artistes, du public, dans les villages autour de Toubab Dialao. Donc il y a eu 10 dates, et c'est une volonté de pour les années futures et des prochaines formations là-bas, de travailler également avec des artistes sénégalais.
Très bien. Je vois que l'heure tourne et qu'il nous faut quelques minutes pour des annonces qui pourraient être fort utiles pour nos auditeurs. Je vous laisse la parole pour vos bureaux, entre autres, et des formations et des laboratoires encore ouverts.
Bien sûr. Alors, j'ai juste oublié de vous dire que cette année, justement, au niveau international, on accueillait la compagnie L'Aléa des Possibles, qui est une compagnie malgache, et qui sera en résidence sous chapiteau à Saint-Bonnet-le-Château du 24 au 30 juin, qui présentera un spectacle d'ailleurs le 29 et 30 juin, et on organise une rencontre professionnelle autour de leur venue sur l'esthétique du cirque à Madagascar, son développement, etc. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nous pour plus d'infos. Et on a une petite annonce à passer, comme nous partons à Pontempera dans une semaine, nous allons louer nos locaux. Donc nos locaux à Lyon qui sont situés rue Baudin sous le Gros Caillou dans les pentes de la Croix-Rousse. Et c'est un espace de 40 mètres carrés qui se trouve dans un bureau mutualisé. Donc il y a deux marionnettistes, une créatrice de vêtements, une créatrice de bijoux qui partagent notre local. Et c'est un open space avec téléphone internet pour 400 euros par mois. Voilà.
Et si des artistes créateurs sont encore intéressés par certaines formations ou laboratoires ou souhaiteraient venir en résidence, est-ce que c'est encore possible pour cette saison 2012-2013?
Alors pour les résidences, pardon, je dirais non, puisqu'on est déjà sur de futures sélections en 2014. Donc le programme des résidences de cette année est déjà complet, le planning est bouclé. Par contre, pour ce qui est des formations, c'est tout à fait possible de s'inscrire encore. Et il y a des formations tout au long de l'année jusqu'en décembre 2013, avec de nombreuses propositions qui ne sont pas encore remplies. Et donc il y a toujours de la place pour s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est facile, il suffit d'aller sur notre site internet www.hôtellerie-pontempera.com, onglet formation, inscription en ligne. Moi, je parlerai vite fait des formations en préfiguration pour 2014, puisqu'il y en a quelques-unes. Une notamment avec la compagnie de cirque et théâtre documentaire qui s'appelle le GDRA, qui est basée dans le sud de la France, et qui reviendront à Pontempera après une première étape de formation l'année dernière, en 2012, qui reviendront à Pontempera en 2014, proposer quelque chose sur le théâtre documentaire et le collectage de paroles, surtout sur notre territoire. Il y aura également Meg Stuart qui est une performeuse plutôt connue dans le champ de la danse contemporaine qui œuvre depuis plus de 20 ans entre l'Allemagne, les États-Unis et la France, qui viendra également en 2014 donner 15 jours de workshop sur le corps. Et puis Yves Noël Genot, un metteur en scène parisien, et Laurent Chétoine qui est chorégraphe, qui donneront une formation ensemble en 2014. Voilà, vous en serez plus en suivant l'actualité sur le site internet.
Et peut-être qu'on vous réinvitera après ce bel été passé à Pontempera.
Avec plaisir.
Voilà, vous êtes un échantillon, vous représentez la moitié de l'équipe permanente de Pontempera. C'est un projet colossal, passionnant, qui est, peut-être on me dire un petit mot sur les partenaires quand même, financé par...
Alors qu'il y a la particularité, vu qu'il est à cheval sur deux régions, d'être financé par d'abord l'État, puisque c'est un projet qui est porté à un niveau national aussi, donc le ministère de la Culture finance le projet via les DRAC Auvergne et les DRAC Rhône-Alpes, donc les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles. Il est également financé par les deux conseillers généraux, les deux conseils généraux, que sont celui de la Loire et celui de la Haute-Loire, donc pour les départements. par les conseils régionaux d'Auvergne et de Rhône-Alpes et par les deux communautés de deux communes sur lesquelles nous travaillons, la communauté de communes de Saint-Bonnet-le-Château du côté de la Loire et la communauté de communes de Craponne-sur-Arzon du côté Haute-Loire. Ponctuellement, le projet travaille aussi avec des sociétés de perception privées comme l'ADAMI ou la SACD, et donc ponctuellement le projet reçoit certaines subventions pour ses cadres de recherche et de formation de la part de l'ADAMI. Voilà.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vais vite donner l'antenne à Anaïs Saintas qui nous a préparé une petite chronique sur un spectacle qu'elle a vu cette semaine et dont elle va vous parler pendant une minute.
Merci Marion.
Merci et bonne semaine à tous.
À bientôt.
Oui, bah, tout à fait. Je vais vous parler de « Et ils vécurent heureux », d'une production du collectif BIS que je suis allée voir lundi dernier au Théâtre de l'Élysée. Je m'assois au premier rang à court, dans les sièges profonds du petit théâtre de l'Élysée. Je n'ai aucune idée de ce que je vais voir. Le prospectus que je tiens dans mes mains ne me dit rien de plus qu'un spectacle qui aurait pu être joué 1000 fois de 1000 manières différentes. Je cite « Et ils vécurent heureux » et ensuite « Que se passe-t-il quand les héros, après leurs aventures, peuvent-ils enfin vivre heureux ?» N'est-ce pas dans ce laps de temps où tout s'apaise que notre existence s'aggrave, se consume, lorsque dès la sonnerie du réveil, notre journée redémarre et que nous traînons nos corps vides à la première station de métro? Dès les premières minutes du spectacle, je me dis « Oh là là, c'est encore la mise en abîme de l'existence vide du vide de nos vies de pauvres petits Européens empêtrés dans nos contradictions. » Et puis, je tends l'oreille. J'ai l'impression que la comédienne parle avec un drôle d'accent, ou elle a le nez bouché, ou bien une patate chaude dans la bouche, ou « Ah mais oui, elle m'a piégée !» Les rires fusent dans la salle, je me détends, je suis plus attentive. Puis, deux comédiens essayent de consoler celui qui est inconsolable. Ils déblatèrent comme un monstre à deux têtes, enchaînant les banalités. Cette fois, je ris carrément, ils sont à la fois insupportables et très drôles. Pour finir, un chœur de 14 comédiens débarque sur le plateau et j'ai l'impression d'avoir été victime d'une caméra cachée. Eh non, ce n'est pas un spectacle qui parle juste de la déprime. C'est un spectacle drôle, original, enlevé, rythmé, qui dénonce l'absence de perspective et l'inaction d'une génération désenchantée, qui propose de faire plutôt que de dire, d'agir plutôt que de pleurer, de se réveiller au lieu de dormir en pensant que c'était mieux avant. Bref, qui réveille les corps et les consciences avec subtilité et une bonne dose d'humour. Donc le projet a été initié en 2012 dans le cadre des diplômes d'études théâtrales organisés par le Conservatoire d'art dramatique de Lyon. C'est le produit d'une création collective du collectif BIS. L'idée de base, c'était à la base d'explorer le tragique du quotidien, le tragique du détail. La mise en scène est signée Michael Comte. Les trois comédiens principaux sont Adja Nadjar, Maxime Roger et Thomas Tracy. Et donc le chœur est composé de 14 comédiens qui viennent de différentes formations et écoles. La musique est de Luc Biro, au saxophone, Laura Mondet au piano et la lumière Gaspard Charton. Vous pouvez encore voir ce spectacle ce soir et demain à 19h30 au théâtre de l'Élysée, mais si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le site ce matin, j'ai cru comprendre que c'était complet, mais sait-on jamais, il y a toujours des désistements. Vous pourrez éventuellement téléphoner ou passer directement au 14 rue Bascoubalot dans le 7e arrondissement de Lyon et réserver sinon au 04 78 58 88 25. Voilà, merci à tout le monde.
Merci beaucoup Anaïs, merci à l'équipe de Pontempéra et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.